Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez RMC.
Tout de suite, quel chemin parcouru, messieurs.
Elle court la maladie d'amour.
Bonjour Bruno.
Bonjour. Oh.
Dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans.
C'est ce que tout le monde dit sur toi, que t'es quelqu'un d'attachant et très gentil. Dans ma bouche, c'est pas péjoratif quand je dis gentil.
Et je pense que c'est mérité.
Elle chante, la rivière insolente.
On n'a pas une vision trop lointaine tous les deux parce qu'on reste des passionnés de football.
Et comme tu l'as dit, parler foot en compagnie de gens que j'apprécie beaucoup.
Qui lit dans son lit les cheveux blonds.
Voilà, donc c'est l'événement, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, une recette sans plat.
Aussi, hein.
Oui, bien sûr.
Salut Bruno.
Bonsoir.
Bonsoir Bruno, bienvenue. Bienvenue, merci d'être là pour une deuxième fois dans Rotten sans flamme. Voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quelle lecture tu as sur le début de saison de
Rennes est 8e, Rennes, avec 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites et 4 points pris sur 6 possibles en Europa League.
Ouais.
Non, c'est pas ce qu'on espérait par rapport aux ambitions du club. Même si il y a du mieux sur les derniers matchs, parce qu'on vient de faire 6 matchs invaincus, toutes compétitions confondues, mais on a eu un début de saison poussif, avec pas mal d'erreurs individuelles qui nous ont coûté des points, et puis aussi un jeu qui est à se remettre en place, j'allais dire. Mmh. Et là, il y a du progrès, même si c'est pas encore ce qu'on espère. Il y a du progrès dans le jeu, il y a du progrès dans les résultats.
Tu penses que c'est dû aussi à cette défaite sur la première journée de championnat qui était inattendue contre Lorient quand tu perds à domicile? Est-ce que ça met un coup derrière la tête à ton équipe sur un début de saison?
Non, je pense pas que ça soit que ça. Je pense qu'il y a plusieurs raisons pour expliquer notre début de saison assez moyen. Premièrement, on a perdu notre charnière centrale, puisque Naïef Aguert est parti et Warmed Omari s'est blessé et indisponible pour de longs mois. Elle a été remplacée, mais assez tardivement, pour plein de raisons qu'on ne maîtrisait pas, et notamment parce que on a perdu beaucoup de temps sur un dossier où on s'est fait un petit peu trimballer par des gens autour de ce dossier, en l'occurrence Kim, le Coréen, et ce qui nous a fait perdre du temps. Et
alors, j'ai l'impression qu'on a perdu Bruno. La connexion s'est interrompue. Il était en train de nous parler de la gestion du mercato en défense, donc il a perdu du temps sur Kim, et ce qui a fait qu'il a pris du retard ensuite sur les autres dossiers. Voilà, on a retrouvé Bruno.
Ouais, Bruno.
Ah, pardon.
Ouais, ça a coupé. C'est pour ça que tu nous disais que ça avait pris du retard.
Donc je disais, Voilà, sur le dossier de la charnière, et les gars ont attaqué le championnat avec un seul entraînement commun et aucun match de préparation ensemble. Il y a eu aussi la période du mercato qui perturbe toujours un petit peu les uns et les autres. Et depuis, à la fois parce que on a retrouvé des automatismes, on a pu bien travailler pendant le mois d'août, et puis parce que le mercato est terminé, on retrouve l'esprit, et on retrouve par moment, en tout cas, la qualité de jeu qu'on avait l'année dernière.
Bruno, l'année dernière, quand on est venu te voir pour faire le bilan de l'année et tout ça, t'avais pas encore prolongé. Je sais parce que tu nous l'avais dit, et puis parce que c'est sorti, t'as été très sollicité. Qu'est-ce qui t'a fait rester à Rennes, en fait?
Moi, je dis souvent qu'il y a trois critères importants dans les choix qu'on fait. Enfin, en tout cas pour moi. Bien sûr, il y a le projet sportif du club. Il y a aussi les gens avec qui on travaille, le projet humain. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est l'aspect financier. Et au niveau du projet sportif, je me sens parfaitement bien ici à Rennes. Je pense que c'est un club qui est en pleine progression. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et c'est assez intéressant de mener un projet comme ça à développer. Au niveau humain, j'ai la chance et je sais que c'est très très important pour en discuter avec certains de mes collègues qui ont pas cette chance d'avoir des liens très forts avec le directeur sportif, en l'occurrence Florian, et mon président, ainsi que le propriétaire du club. Donc c'est essentiellement pour ces deux raisons-là que j'ai fait le choix de rester à Rennes.
Tu nous parles de tes excellentes relations avec Florian Maurice, le directeur sportif. Il y a quand même eu quelques divergences. Il y a eu le cas Umtiti, par exemple, que tu voulais recruter en défense centrale. Il y a eu des arrivées tardives aussi. Moi, je t'avoue, et je sais pas, tu vas nous répondre là-dessus. J'ai pas trop compris le départ de Laborde, sachant que c'est un joueur qui était arrivé il y a pas si longtemps que ça et que tu avais placé assez haut dans la hiérarchie des leaders de vestiaire, non?
Oui, alors il y a deux choses. Bah, sur les différences, ça nous arrive régulièrement, et c'est ce qui est bien, c'est qu'on est capable d'avoir parfois des désaccords, mais ça se règle toujours bien parce que il y a une honnêteté entre nous qui est sans faille. Et je le dis souvent que les désaccords font avancer les choses tout le temps quand ils sont dans l'ordre des choses. Concernant Gaëtan, bah, ça a été une opportunité pour lui et pour nous en fin de mercato, pour lui de se retrouver dans un club où il souhaitait aller avec des conditions meilleures pour lui, et puis pour nous de récupérer un joueur plus jeune que j'ai bien connu aussi à Lyon. Donc ça a été une opportunité du mercato. Parfois ça arrive de faire des choses comme ça un petit peu à la fin, parce que c'est l'opportunité qui fait qu'on choisit.
19h07, vous êtes sur RMC. Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes et l'invité de Rotten sans flamme. Question de Manu Petit. Bonsoir. Avec le micro, Manu.
Bonsoir Bruno. J'avais une question toute simple. Bonsoir. Par rapport au recrutement que vous avez effectué durant le mercato estival. À moins que je me trompe, mais il me semble que Rennes a l'effectif le plus jeune de Ligue 1, non?
Oui, je l'ai appris aussi il n'y a pas très longtemps, je ne le savais pas. Ouais.
Il me semblait, il n'y a pas un lien justement avec, tout à l'heure, tu disais que vous aviez souffert en début de saison d'un déficit justement individuel sur beaucoup d'erreurs qui vous a coûté beaucoup de points. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose sur lequel l'équipe doit travailler absolument pour arriver à vos objectifs?
Oui, bien sûr. Je pense qu'effectivement, on a une équipe très jeune avec beaucoup de qualités. Un esprit, un très très bon esprit, mais forcément, bah, parfois il faut accepter que ces joueurs-là fassent quelques erreurs qui peuvent coûter cher, mais je suis persuadé que sur la durée, on va s'y retrouver parce que ce sont des garçons avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel. Et puis encore une fois, j'attache beaucoup d'importance aussi à l'esprit du groupe. Et là-dessus, je suis complètement gâté parce que on a vraiment un groupe qui travaille très bien, qui a l'esprit de collectif, qui travaille les uns pour les autres. Et donc c'est pour ça que je suis assez confiant pour la suite, même si aujourd'hui le début de saison n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer.
Donc ça veut dire qu'il y a eu une prise de conscience du groupe, parce que de mémoire, il me semble qu'en début de saison, tu avais été extrêmement en colère après une défaite de tes joueurs. Tu avais même fait une déclaration sur les fameuses claquettes. Et donc depuis, en l'espace de quelques semaines, l'état d'esprit a changé quoi au sein du vestiaire.
Ouais, c'était en une époque où il y avait beaucoup de bruit de mercato sur des départs, sur des joueurs qui étaient sollicités à droite, à gauche. Et je pense que ça nous a beaucoup perturbés, justement parce qu'on est encore un groupe jeune et pas prêt à tout ça, pas prêt à assumer tout ça, parce que c'est inhérent à tous les clubs. Et depuis, on a retrouvé un équilibre, on a retrouvé de la sérénité en dehors du terrain. Et ça se traduit avec des matchs beaucoup plus aboutis sur le terrain. Mais on a encore beaucoup de choses à améliorer pour lutter pour les premières places, ce qui est l'objectif du club. Donc on travaille fort, on travaille dur pour ça. Et encore une fois, j'ai la chance d'avoir un groupe réceptif et c'est pour ça que je suis confiant.
Bruno, moi, dans mes critiques, et ce que tu pouvais me reprocher aussi, quand on s'était vu l'année dernière, mm-hmm. c'était que je mettais souvent que ça, tes joueurs, par moment, manquaient de caractère. Et que c'est pas ce qui te caractérise le plus, déjà, au premier abord, comme ça. Hein. Après, tu m'avais expliqué d'autres choses. Mm-hmm. Et tu m'avais dit que oui, en effet, tu voulais recruter aussi des joueurs avec un peu plus de caractère. Là-dessus, j'ai pas l'impression que ça a évolué, à part peut-être Mandanda dans les buts, en effet. Mais les joueurs de champ, je reste un petit peu sur ma faim. Est-ce que c'est ton cas aussi?
Bah, c'est vrai qu'on avait au départ ciblé des joueurs d'expérience, avec un vécu, notamment des compétitions européennes. Après, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, le mercato parfois est un petit peu compliqué. On n'a pas réussi à faire tous les dossiers qu'on souhaitait faire, mais on a fait... dernièrement, Kcheka pour remplacer aussi Santa Maria qui s'est blessé. On a Steve qui nous apporte beaucoup de caractère et d'expérience. Et on a aussi des joueurs qui faisaient partie du groupe l'année dernière. Je pense à Benjamin Bourigeau, à Martin Terrier, à Marie Traoré, Flavien Tay, qui commence à prendre aussi un peu plus d'ampleur dans ce domaine-là. Et je trouve justement que notre équipe montre davantage de caractère que l'année dernière, parce que cette année, depuis le début de saison, on a réussi à revenir au score, on a réussi à gagner des matchs, même en étant mené, ce qui n'avait pas été forcément le cas l'année dernière, où on gagnait souvent quand on ouvrait le score, mais où on avait davantage de difficultés à revenir dans la partie quand tout ne se passait pas comme on avait prévu. Donc ça montre aussi que dans ce domaine-là, même si on a encore beaucoup de joueurs inexpérimentés, on a progressé quand même.
Mathieu.
Oui, avec Bruno, j'espère que tu vas bien. Bruno, moi, revenir un petit peu sur le 11 que tu peux mettre. La dernière, tu jouais souvent en 4-3-3 avec une pointe basse, deux joueurs un peu plus haut. Là, on t'a vu jouer régulièrement avec Doué derrière l'attaquant, mais avec les joueurs que tu as offensivement, est-ce que tu envisages de passer en 4-4-2 avec deux pointes, Goury par exemple et Terrier, ou Goury et Kalimuendo notamment?
Oui, il y a de grandes chances que ça soit le cas quand tout le monde sera au top. Parce que là aujourd'hui on a Arnaud Kalimuendo qui revient de blessure, on a des joueurs qui sont arrivés tardivement, donc c'est possible, c'est une grosse éventualité qu'on évolue dans ce système là. Mais ce que j'aime bien avec l'effectif que j'ai à ma disposition aujourd'hui, c'est que je peux utiliser deux systèmes différents avec des qualités différentes par rapport aux hommes que j'alignerai et par rapport au système que j'alignerai. Donc je trouve que c'est intéressant aujourd'hui dans le football moderne, à la fois en cours de match, mais aussi d'un match à l'autre, d'être capable de changer de système, de changer de compo d'équipe, surtout avec cette saison un petit peu particulière où on va enchaîner beaucoup de matchs avant la trêve pré-Coupe du Monde. Donc on va avoir besoin de toutes nos forces.
Bruno, je reviens juste. Jérôme a fait allusion au dossier Umtiti cet été. Vous étiez favorable de le prendre pour le relancer. Ça n'a pas été le cas du reste du club. Pourquoi vous n'avez pas réussi à les convaincre?
Bah, vous savez, parfois, on a dans le football, on peut avoir des divergences, on peut avoir des avis différents, des évaluations différentes. Le plus important, c'est d'en discuter librement, honnêtement, et puis ensuite, la décision qui est prise, elle doit être assumée par tout le monde, y compris par ceux qui n'étaient pas forcément d'accord. Et c'est mon cas. Donc,
il y avait des doutes sur son physique, Bruno.
C'est un peu ça, oui, c'était un peu ça. Moi, j'étais persuadé de pouvoir le ramener à son meilleur niveau, parce que c'est un garçon que je connais très bien, parce que j'avais beaucoup échangé avec lui, et parce que je pense que c'est quelqu'un qui est tellement travailleur qu'il n'y a pas de raison qu'il ne retrouve pas un très très bon niveau. Maintenant, je peux comprendre aussi que ça posait des interrogations chez certaines personnes. Et encore une fois, à partir du moment où ça se règle entre nous et en toute honnêteté, il n'y a pas de souci. C'est comme ça aussi qu'on avance. Je demande d'ailleurs même à mon staff aussi de forcément pas toujours être d'accord. Et quand ils ne sont pas d'accord avec moi, surtout de ne pas se priver pour me le dire. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on doit fonctionner.
Bruno, moi j'ai une question sur les coachs français. Alors souvent, vous estimez qu'on les... on les titille et les dénigre un peu plus que les coachs étrangers. Là, vous avez l'avantage aujourd'hui d'être représenté par Christophe Galtier qui entraîne la meilleure équipe de France. Oui. Est-ce que toi, ça te donne aussi des envies après d'ailleurs d'être dans un top club et de casser cette image là et de se dire surtout, bah, j'en suis capable d'aller entraîner un top club.
Moi, j'ai pas forcément de plan de carrière. J'en ai jamais eu. Avant que j'entraîne Lyon, j'étais pas forcément formaté pour ça. Donc, c'est pas. Je pense en être capable parce que je suis plus le même entraîneur aujourd'hui que celui que j'étais il y a 5 ans ou 6 ans en arrière. Mais c'est pas quelque chose qui m'obsède. Je trouve que c'est très bien que Christophe soit à la tête du PSG. Mais et je le répète pour que ça soit bien clair, c'est pas. Et j'ai pas de grief contre les entraîneurs étrangers. Au contraire, il y en a plein avec qui j'ai de très bonnes relations. Je pense qu'il y a des très très bons entraîneurs étrangers, qu'il y a aussi des très bons entraîneurs français. Bon, Christophe en fait partie. Et Francaise à Lens depuis quelques saisons montre aussi que c'est un très très bon entraîneur. Voilà. Mmh. Donc c'est juste ça. Et je pense presse, oui effectivement que je peux. Ouais, tout à fait. Et puis moi, ce que je regrette, c'est que me concernant très souvent. À chaque fois que je faisais une interview, on me parlait plus des problèmes extra-sportifs que je pouvais rencontrer avec mes supporters ou avec la presse ou
que de foot.
Ma relation avec le président que de jeu et de foot. Mmh. Voilà. Donc et après on disait bah finalement il a pas de
il parle pas de
culture tactique, il parle pas de foot. Mais alors, Bruno, je faisais que répondre aux questions qu'on me posait. Voilà. Donc
on vous garde encore quelques minutes. Oui. Bruno Genesio, l'entraîneur de Rennes, oui. Dans Rotten sans flamme. Et il y a une petite phrase
en parlant des
entraîneurs français étrangers. Il y a une petite phrase, Jérôme, que Bruno a prononcée récemment qui t'a fait réagir. Tu vas l'interroger sur le sujet dans une seconde. Restez avec nous dans Rotten sans flamme. À tout de suite.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h18 sur RMC, toujours dans Rotten sans flamme. On continue notre interview avec notre invité exceptionnel, Bruno Genesio, qui est là, qui nous fait le plaisir d'être là. On est bien sûr avec Manu Petit, avec Mathieu Bonnemer, avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis, on continue.
Et on reviendra sur l'équipe de France. Fait-on toujours partie des favoris au Mondial 32-16 pour monter sur le ring des supporters. Et puis, juste, je vous signale qu'on a des places pour Marseille-Ajaccio et pour Nice 3 pour le retour de la Ligue 1 le week-end prochain. Vous appelez le 32-16 pour gagner ses places. Bruno Genesio, donc l'entraîneur de Rennes avec nous. Alors Jérôme, je sais que cette phrase que Bruno a prononcée dans une longue interview dans la revue de l'After t'a fait réagir. Bruno a dit face à Daniel Riolo, si c'est moi qui fais la saison à la place de Peter Bosz l'année dernière, je me fais découper. Pourquoi ça t'a fait réagir?
Non mais là autant je te donne raison, hein, Bruno, sur cette phrase-là, il n'y a pas de problème et on est d'accord là-dessus, on en avait déjà parlé de toute façon. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dessus, c'est pourquoi. Alors peut-être le contexte, tu vas me répondre, mais pourquoi tu continues à répondre à ces questions-là? Parce que moi j'ai l'impression que tu vis encore dans le passé à Lyon et que à Lyon tu te faisais critiquer et tout ça, alors qu'aujourd'hui t'es plus le même entraîneur. C'est ce que même toi tu le dis, t'as passé un cap, t'as plus besoin de réagir sur l'Olympique Lyonnais. On est d'accord?
Oui, tu as raison. Après, c'est dans une discussion qu'on a eue qui a duré environ une heure ou une heure et quart. Et d'ailleurs, ça tombe bien que tu m'en parles parce que je veux mettre les choses au clair. Mmh. C'est absolument en aucun cas une attaque sur le coach que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, puisque après les matchs, on a discuté longuement. Donc, c'est absolument pas une attaque contre le coach. C'est absolument pas quoi que ce soit contre l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que c'était une discussion qu'on a eue à bâton rompu comme ça. Mais j'ai tourné la page de Lyon. Je le dis souvent d'ailleurs. Je suis resté 3 ans et demi. J'ai fait des bonnes choses. J'ai encore dit dernièrement dans une interview que j'ai fait ici à Rennes que on me parle souvent des très mauvais moments que j'ai passés à Lyon. Mais moi, ce que je retiens et le souvenir que j'ai de Lyon, c'est tous les bons moments que j'ai passés sportivement, toutes les personnes qui m'ont aidé dans mon staff, dans les dirigeants, toutes les bonnes émotions qu'on a vécues nous aussi là-bas.
Et puis tu nous as même dit, Bruno, que tu n'y retournerais pas. Voilà.
Oui, tout à fait. Non, mais je sais que je n'y retournerai pas.
Mm-hmm. Non, mais l'avenir lui donne raison en plus. Parce que les entraîneurs qui sont succédés derrière lui, est-ce qu'ils ont fait mieux que Bruno? Non,
non. Mais le
contexte lyonnais est quand même particulier des fois.
Hein. Mais tu sais qu'on fait, Bruno, je ne sais pas si tu as écouté l'émission depuis la rentrée, on est avec Juninho. qui nous fait le plaisir d'être là et d'intervenir une fois par semaine. Et il nous disait que à l'époque, t'étais son premier choix. Il voulait pas changer d'entraîneur.
Oui, je sais, j'ai su ça, mais voilà, c'est le passé, comme tu l'as dit. Oui. Mais je pense qu'il faut arrêter de. Ça fait bientôt 3 ans ou 4 ans que je suis parti de Lyon. Et Lyon, c'est Lyon, Rennes, c'est Rennes, et Genesio, c'est Genesio. Voilà,
mais
maintenant,
tu sais, Bruno.
Chacun a son parcours, et c'est vrai qu'il faut arrêter de parler de, du passé.
Tu sais, pour aller dans ton sens, ce genre de réflexion, c'est la réflexion qu'on en discutait encore tout à l'heure entre nous, les anciens joueurs. Moi, j'ai connu ça à mes débuts aussi à Monaco. À chaque fois, on valorisait beaucoup plus les étrangers quand ils arrivaient de l'extérieur qu'un joueur formé même au sein de l'académie d'un club professionnel. Et on me dit que ça perdure, ce genre de raisonnement, au sein même des clubs ici en France. Alors que quand tu vas en Angleterre, l'anglais est prioritaire par rapport à un étranger. Même s'ils achètent à centaines de millions un étranger. Tu vois ce que je veux dire? Donc la valorisation et la reconnaissance, elle est beaucoup plus importante dans certains pays étrangers qu'en France elle-même.
C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, Manu. Ça fait vrai.
Jean-Louis?
Alors, on peut parler de l'arbitrage aussi, profitons-en.
Ah oui, il y a eu une réunion.
Il y a eu réunion la semaine dernière pour discuter avec les capitaines et les arbitres. Et chez Jérôme, que ça te tient à cœur, ce sujet sur l'arbitrage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette réunion? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les arbitres? Parce qu'il y a quand même pas mal d'incompréhension depuis le début de saison.
Alors d'abord, c'était avant tout une réunion sur pour nous expliquer le fonctionnement de la VAR, pour amener des précisions sur le fonctionnement de la VAR, puisqu'il y a eu pas mal de soucis par rapport à ça ces derniers temps. Et puis forcément, il y a eu des échanges sur d'autres choses, et notamment sur la relation entraîneur-arbitre et arbitre-joueur, qui est parfois pas celle qu'elle devrait être avec certains. Et c'est le message qu'on a surtout fait passer à Monsieur Garibian. Je le remercie d'ailleurs d'avoir provoqué cette réunion. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à régler tous les petits problèmes qu'on peut avoir les uns et les autres, et non pas en s'opposant sans cesse. Je pense que l'échange, le dialogue fera avancer les choses. Et nous, le message qu'on a fait passer les coachs de Ligue 1, c'est que on aimerait avoir des arbitres qui ont une attitude respectueuse, comme l'ont certains. Je pense à Monsieur Bastien, Monsieur Buquet, Monsieur Millot, enfin, et plein d'autres, Monsieur Turpin. Et
attention, et en général, ils vont faire la gueule.
Non, mais je veux dire, en général, ça se passe bien. Nous, dernièrement, on a été arbitré à Marseille par Monsieur Bastien. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une faute d'arbitrage. J'ai pas eu de comportement ni de protestation ni de gestes véhéments, parce que c'est un arbitre qui respecte les gens, qui explique, qui est calme et qui règle les problèmes. Donc je pense que c'est essentiel et c'est surtout là-dessus où on doit progresser. Tu parlais tout à l'heure de l'Angleterre, Manu. J'ai vu l'autre jour Manchester Liverpool, l'attitude de l'arbitre a été exemplaire. Il y a eu des petites contestations, il est venu, il a discuté avec les gars, il a rigolé, il les a pris par le cou, terminé, ça s'est réglé tout de suite. Et en France, il y a plein d'arbitres qui sont comme ça, et en général, ça se passe bien. Et puis d'autres qui...
Mais Bruno, ils
sont un peu différents.
Bruno, ils sont ouverts à la discussion sur le fait, parce qu'on en parlait, je sais pas si Manu était dans l'émission, mais c'était avec Eric Dimeco, et on comparait, en effet, avec l'arbitrage en Coupe d'Europe, et tu le vis aussi.
Il y a deux arbitres
qui sont complètement différents. Ouais. L'arbitrage en Angleterre aussi, où il y a beaucoup plus de rythme sur les matchs. Et moi, je le dis sans cesse, c'est pas que dû à la préparation physique des joueurs. Les joueurs, ils courent aussi vite en France qu'en Angleterre. Le problème, c'est comment tu arbitres au premier contact, comment tu siffles. Est-ce qu'ils sont conscients qu'aujourd'hui, il siffle trop?
On n'a pas parlé forcément de ça. Hein. On n'a pas parlé de est-ce qu'ils étaient plus sévères, moins sévères, ou est-ce qu'ils laissaient suffisamment jouer. On a surtout parlé de l'utilisation de la VAR. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'est mis en
situation. Ouais, parce qu'on vous perd un peu, Bruno. Ouais. J'essaie de deviner les réponses en situation.
Oui, vous m'entendez?
Oui, vas-y.
Ils nous ont mis en situation d'arbitre VAR où on devait regarder des actions de jeu et juger s'il y avait faute, pas faute. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup d'attention. Donc c'était intéressant. Et puis il y a eu des échanges, je pense, qui peuvent être bénéfiques et qui peuvent faire avancer. Parce que l'important, c'est que les matchs soient de plus en plus spectaculaires pour les gens qui viennent au stade, et non pas des matchs hachés qui se terminent à 9 contre 10 ou à 10 contre 10 avec des expulsions comme c'est le cas depuis le début du championnat.
Bon, bah écoute, c'est nickel. Bruno, j'ai une dernière question. Ah. Et alors, en toute sincérité, hein, il faut que tu me dises la vérité. Il y a l'équipe de France, on est dans la période bleue, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a un sélectionneur, très certainement, qui va arrêter après la Coupe du Monde. Donc, il y aura un poste vacant en équipe de France. Je te demande pas si t'en rêves, mais j'imagine que le président de la Fédération française de football va prendre un entraîneur français. Et quand je fais le bilan des entraîneurs, il n'y en a pas 15 000 qui peuvent arriver à la tête de l'équipe de France. Est-ce que tu t'en sens capable? Et est-ce que, au fond de toi, ça peut être une petite envie?
Non, mais déjà,
je t'ai piégé là.
D'abord, il y a un sélectionneur qui est en place.
Non.
Non, mais honnêtement, moi, j'aime l'équipe de France. Je pense qu'ils ont. Ils ont tout pour défendre leur titre et gagner de nouveau une Coupe du Monde avec un sélectionneur qui a un palmarès. Il n'y a pas assez de place pour en parler.
Que j'ai lancé.
Donc il faut leur faire confiance, il faut être derrière eux. C'est surtout ça qui est le plus important. Voilà, donc il faut surtout être derrière eux. Et c'est vrai que là, il y a une passe un peu plus difficile, mais avec beaucoup de blessés. Donc,
mais Bruno, est-ce que tu t'en sens capable à l'avenir?
Confiant pour la Coupe du Monde. Non, mais à l'avenir, moi, je me sens capable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sens capable d'entraîner dans un très grand club. Je me sens capable de prendre une sélection. Mais aujourd'hui, l'équipe de France, c'est une des plus grosses nations au monde. Et on sait tous que ça demande encore d'autres arguments que simplement de s'en sentir capable.
Mais jusqu'où ira cette relation Roten-Genesio? Là, il vous emmène en équipe de France. Non, mais c'est
Bruno,
là ce qui se passe.
Je t'appellerai plus Pep Genesio, mais... là j'appellerai Aimé Genesio.
Bruno, merci beaucoup.
Merci Bruno, en tout cas,
merci
ta sincérité et puis surtout bon courage d'avoir pris le temps aussi dans cette période et bon courage pour le reste du championnat et puis surtout faites-nous rêver en Coupe d'Europe parce que les clubs français on a besoin que vous soyez au niveau.
Je sais. Ouais. Merci beaucoup.
Allez, Bruno,
Pierre. Bonne soirée.
Et Pierre Saint-Trope en fin de saison alors.
L'entraîneur de Rennes et on salue également Xavier Grimaud qui suit le Stade Rennais.
Merci
au
Xavier,
quotidien.
Bravo, excellent.
Dans
Xavier.
Une seconde, fait-on toujours partie des favoris pour le Mondial, messieurs? On revient sur l'équipe de France et on fait un petit tour d'horizon des autres sélections. À tout de suite.
Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.